France Culture.
C'est l'heure du journal avec vous, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les négociations pour une trêve à Gaza reprennent à Doha. Des négociations indirectes entre le Hamas et Israël qui fait de la libération des otages une priorité tout en continuant de bombarder intensivement l'enclave palestinienne. Empêcher Donald Trump de forer encore et encore. Avant l'arrivée du républicain à la Maison Blanche, Joe Biden interdit tout nouveau forage offshore de pétrole et de gaz au large des côtes américaines. Nous irons à Mayotte où Marine Le Pen doit atterrir cet après-midi et la chef de file des députés RN devrait recevoir un accueil plutôt chaleureux sur l'archipel. Enfin, nous parlerons des 50 ans de Radio France et du démantèlement de l'ORTF, dont l'idée refait surface dans le débat public. On en parle avec notre invité, Patrick Evenot, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. L'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 100 cibles terroristes en 2 jours dans la bande de Gaza. Des frappes qui ont fait plusieurs dizaines de morts en 24 heures, d'après les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et qui interviennent dans un contexte de reprise de négociations entre Israël et le mouvement islamiste palestinien à Doha pour permettre un cessez-le-feu à la libération des otages. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Alors, ces négociations, à presque 15 mois de guerre, une seule semaine de trêve a pu être conclue et c'était en novembre 2023, Michel.
Oui, ce sont maintenant les frappes israéliennes les plus intenses de ces dernières semaines sur la bande de Gaza avec, vous l'avez dit, plus de 100 cibles sur l'ensemble de l'enclave palestinienne depuis le début du week-end. L'armée israélienne affirme avoir éliminé des dizaines de membres du Hamas selon un communiqué qui précise encore que plusieurs rampes de lancement des roquettes sur Israël ont également été détruites. Comme à leur habitude, les militaires israéliens disent avoir pris des mesures pour atténuer le risque de toucher des civils, notamment avec l'utilisation de munitions précises. Mais le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme lui qu'au moins 88 Palestiniens ont été tués en l'espace de ces dernières 24 heures, sans donner plus de précisions. Le ministre israélien de la Défense, plutôt, Israël Katz, de son côté, a menacé d'intensifier les bombardements dans le territoire palestinien, faute d'un arrêt des tirs de roquettes sur Israël. Alors, ces frappes interviennent alors que les négociations pour une trêve et pour la libération d'otages se déroulent dans la capitale qatarienne. Et de l'avis de plusieurs commentateurs ici, elles montreraient la volonté de marquer des points sur le terrain avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.
Michel Paul, en direct de Jérusalem pour France Culture. L'armée israélienne qui annonce par ailleurs avoir intercepté ce matin un nouveau missile en provenance du Yémen avant qu'il ne pénètre sur son territoire, un tir revendiqué par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. 2 semaines avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président sortant Joe Biden multiplie les décisions pour soigner son bilan et contraindre un peu plus l'action du prochain dirigeant républicain. Dernière en date, l'interdiction de tout nouveau forage offshore sur une superficie de 250 millions d'hectares au large des côtes américaines. Les précisions depuis New York de notre correspondant Loïc Loury.
Forer encore et encore, comme il le disait pendant sa campagne, voilà comment Donald Trump avait résumé sa future politique énergétique. Joe Biden va tenter de lui donner du fil à retordre. Pour cela, l'actuel président doit interdire tout nouveau forage au large des côtes américaines sur une superficie égale à 250 millions d'hectares, en particulier dans l'est du golfe du Mexique. Le démocrate invoque une loi de 1953 qui lui donne de large pouvoir en la matière, une décision très dure à défaire sans un vote du Congrès par nature difficile à obtenir. Cette annonce, dans les derniers jours de sa présidence, conforte l'héritage de Joe Biden dans la lutte contre le changement climatique, à l'inverse d'un Donald Trump climato-sceptique et champion de la dérégulation. Vendredi, il demandait encore à Londres d'ouvrir ses gisements en mer du Nord et de se débarrasser de ses champs d'éoliennes.
Joe Biden, qui doit rencontrer dans les prochaines heures Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien en exil qui poursuit sa tournée sur le continent américain à quelques jours de l'investiture à Caracas de Nicolas Maduro. Il a été reçu hier par le président argentin Milei. Il est également attendu au Panama et en République dominicaine. Edmundo González Urrutia qui revendique toujours la victoire au scrutin du 28 juillet dernier. Et il promet même à Alice Campagnol de rentrer au Venezuela le 10 janvier pour prendre ses fonctions de président.
J'ai l'intention de me rendre au Venezuela pour assumer le mandat pour lequel les Vénézuéliens m'ont choisi. Edmundo González Urrutia est resté ferme hier à Buenos Aires. Il continue à affirmer qu'il rentrera dans son pays pour y être le prochain président, lui qui a dû s'exiler en Espagne en septembre. Il est soutenu par une grande partie de la communauté internationale, mais au Venezuela, l'ex-ambassadeur est sous le coup d'un mandat d'arrêt et 100 000 dollars de récompense sont offerts à quiconque aidera à sa capture. La tension monte, le gouvernement est sur les dents, l'opposition a promis une grande mobilisation le jour même de l'investiture, le 10 janvier. Mais il semble très difficile qu'Edmundo González ne parvienne ne serait-ce qu'à entrer en territoire vénézuélien où les forces de l'ordre sont mobilisées depuis déjà plusieurs semaines. Mais González, qui se revendique donc président élu, maintient par sa tournée régionale la tension sur le cas vénézuélien où Nicolas Maduro se positionne plus que jamais en despote, lui qui a désormais perdu le soutien de son peuple.
Alice Campagnol, correspondante de France Culture au Venezuela. Quel accueil réserveront les sinistrés maorés à Marine Le Pen ? La chef de file des députés RN doit arriver à 17h, heure locale, sur l'archipel, 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Et sa visite sera sans doute moins mouvementée que celle réservée au président de la République, étant donné les scores réalisés par le RN aux différentes élections à Mayotte. Pour Safina Soula, présidente du collectif des citoyens 2018, si Marine Le Pen est la bienvenue, gare à toute récupération politique.
Marine Le Pen est française. D'abord, c'est une élue de la République. Donc quand elle vient à Mayotte, au même titre que les autres élus, elle vient chez elle. Alors j'imagine bien qu'elle vient parce qu'on a été sinistrés, on a eu quand même ce choc. Moi, je ne veux pas qu'on instrumentalise cette situation. Si elle va venir ici, il ne faudra pas qu'il y ait de la récupération politique. Si on en vient, on vient parce que la population souffre, on vient accompagner, aider si on peut, soulager, communiquer, discuter avec la population. Comme ceux qui étaient là il y a quelques jours sont venus. Basse, ça veut dire c'est tout. Donc on va accueillir parce que c'est notre élue. Forcément, elle sera comme tout le monde en train de regarder un petit peu la situation des Maorés et des Maoraises. Et ça, c'est important parce que de nos jours, on est en train de mélanger. Parce qu'il y a un tel taux d'occupation par une population immigrée qu'aujourd'hui, on oublie que la priorité, c'est d'abord effectivement les Français de ce territoire.
Propos recueillis par Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro, cette visite de Marine Le Pen doit durer 2 jours. Elle doit rencontrer notamment secouristes et des sinistrés. Les actes antisémites ne baissent pas en France. Au 30 novembre dernier, 1500 faits antisémites ont été recensés dans le pays, d'après la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, invitée d'Europe 1 ce midi. Selon ses services, les atteintes à la personne représentent 63% de ces faits. En 2023, pour rappel, le nombre de faits antisémites recensés dans le pays avait été multiplié par 4 en un an, atteignant 1676 cas. Malgré les interdictions préfectorales, ils menacent toujours de bloquer Paris. Des dizaines d'agriculteurs de la coordination rurale maintiennent leur appel à manifester aux abords de la capitale. Ils entendent ainsi se retrouver sur différents points de blocage, sur les axes franciliens, mais également dans le secteur du marché de Rungis. Mais ils ne veulent pas pour autant empêcher les gens de circuler, assurent-ils. Des agriculteurs donc toujours en colère, et ce depuis un an. La date de rendez-vous par Matignon de 13 janvier prochain leur semble bien trop lointaine. Ils veulent des actions concrètes de la part du gouvernement car il y a eu trop de promesses non tenues, estime Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale.
Le problème, c'est que nos politiques se cachent départementaux, régionaux, se cachent toujours derrière un niveau supérieur. Et là, Paris se cacherait aussi derrière l'Europe. Sauf que nous, nos interlocuteurs, c'est Paris. Les engagements qui nous ont été faits et promis, c'est Paris. Et ce n'est pas parce que nous avons obtenu et que les autres syndicats aussi, du coup, vont être reçus le 13 janvier prochain que nous allons faire demi-tour. Les tracteurs sont déjà positionnés dans plusieurs départements qui encerclent Paris et nos actions vont avoir lieu. Et voilà, ça durera peut-être moins longtemps puisque le rendez-vous, il est fixé. Mais toujours est-il que suivant le résultat, suivant les promesses du Premier ministre le 13 janvier prochain, eh bien, je pense que le salon de l'agriculture pourrait être un peu bousculé.
Véronique Le Floch au micro de Léo Rosé, le salon de l'agriculture qui doit débuter le 22 février prochain. Radio France fête aujourd'hui ses 50 ans, une date d'anniversaire qui correspond en réalité à une disparition, celle de l'ORTF, l'Office de Radio Diffusion Télévision Française a été dissous le 5 janvier 1975, un éclatement annoncé quelques mois plus tôt par le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Bonjour Patrick Evenot.
Bonjour.
Professeur émérite en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en direct avec nous et en studio sur France Culture. D'abord, est-ce que vous pouvez nous retracer dans quel contexte intervient ce démantèlement de l'ORTF en 1975?
Oui, alors c'est un peu compliqué parce que la France est le seul pays européen à avoir brisé avec l'exemple type qui est celui de la BBC, fondée en 1922, qui regroupait toutes les radios, et puis ensuite radio et télévision, et auprès duquel se sont fondées petit à petit des radios privées, mais la BBC est restée entière. Il y a eu la même chose en Belgique, en Suisse, en Espagne dans les années 30. Et en France, on a attendu 1945 pour nationaliser la radio dans laquelle est née la télévision et c'est devenu l'audiovisuel public. D'abord RDF, RTF, ORTF, créé en 64 et dissoute donc fin 74 ou début 75. Mais dans tous les pays européens, la structure est restée entière et puis on a eu un double secteur qui s'est créé petit à petit. En France, les politiques trouvaient que l'ORTF, c'était une trop grosse machine, il y avait des grèves, il y avait des syndicalistes, il y avait, bref, des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas tout à fait convenables pour le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, on a décidé de briser cet ensemble et d'en faire cette société de programme, TF1, qui existe toujours, France 2, France 3, enfin Antenne 2, France 3, Radio France, qui est resté, heureusement, ils n'ont pas divisé Radio France en plusieurs parties parce que ça aurait été la catastrophe. Et puis l'INA, la Société Française de Production et Télédiffusion de France qui faisait les diffusions techniques. Bon, le problème, c'est que ensuite, on a rajouté à cela le fait que Jacques Chirac, en 87, a privatisé la première chaîne, TF1, qui faisait le plus d'audience. Donc, on a privé l'ex-ORTF, enfin, c'est cette société, on a privé de... Bon, on a privatisé la SFP, on a privatisé TDF. Enfin, bref, on est arrivé à quelque chose qui fait que l'audiovisuel public est un peu morcelé, mais que maintenant, 50 ans après, on veut réunir tout ça pour en refaire une BBC à la française, qui est... quelque chose de... je dirais pas imbécile, mais qui tient absolument pas compte de l'histoire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il fallait donner, en 74-75, l'indépendance éditoriale complète à l'ORTF et garder l'ORTF telle qu'elle était, avec comme était la BBC ou la RAI, etc.
Oui, parce que vous le dites, vous, depuis 50 ans, la France n'a jamais réussi à stabiliser son secteur de l'audiovisuel public.
Jamais, parce que on s'est débarrassé d'un certain nombre de choses. Donc je disais la SFP, Société Française de Production, qui produisait l'essentiel des émissions de télévision, mais aussi des émissions de radio, et qui a petit à petit été démantelée et a fini dans l'escarcelle de Bolloré. Vous voyez que c'est pas la stabilisation de l'audiovisuel public, c'est pas encore ça. TDF privatisé, l'INA qui a été créée en 74, qui est un service public de dépôt légal, mais qui n'est pas une entreprise. Et puis on n'avait plus d'audiovisuel extérieur de la France. Donc on l'a recréé dans les années 2000 avec la création de France 24 et puis ensuite le regroupement de France 24 et de RFI qui était chez Radio France mais qui est repassé chez France 24. Vous voyez, toute une série d'allers-retours comme ça sans jamais avoir de projet politique clair si ce n'est de dire on va mettre la main sur l'audiovisuel pour essayer de lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire, ce qui n'est pas possible quand on a 3000 journalistes dans un groupe.
En quelques secondes, Patrick Evenot, le modèle de la BBC que vous avez évoqué est souvent cité en exemple puisqu'il est adaptable aujourd'hui à l'audiovisuel public français alors qu'on parle de nouveau forcément de réforme.
Ben écoutez, franchement, je crois pas, parce que là, pour l'instant, enfin, Rachida Dati était sur la fusion complète pour faire une BBC à la française. Mmh. Ça demande des années et des années de conventions collectives à négocier, de la radio et la télévision, c'est pas la même chose. Alors bien sûr, on peut faire des deux, mais une rédaction de radio, une rédaction de télévision, c'est pas du tout pareil, ça fonctionne pas de la même façon. On voit bien que France Info télévision, ça marche pas bien à cause de ça, parce que là, bon et puis, les fusions, on voit que même encore actuellement à France Télévisions, la fusion France 2, France 3 n'est pas terminée.
Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos précisions, Patrick Evenot. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en histoire à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Un mot de météo avec un ciel très nuageux. C'est attendu cet après-midi sur la majeure partie des régions. Les températures sont douces, comptées entre 10 et 15 degrés en moyenne.